Rosnijan, l'illusion. Je finis mon droit de bonheur, de si bonheur que les travaux des grands juristes n'eurent pas le temps de me flétrir l'âme, ni les amourettes du quartier latin de me blinder le cœur. Je rentrai chez mes parents, doux comme une fille, avec une grande fleur bleue prête à s'ouvrir au fond de moi. D'ailleurs, ces études de droit n'avaient pour ma famille aucun but défini. Elles étaient de tradition. Tout ce qui n'entrait pas à Saint-Cyr pâtissait sur les codes. Après cela, on demeurait à la campagne et on s'appliquait à tirer les plus beaux revenus possibles d'admirables et immenses propriétés. Les avocats ne parlaient plus que chevaux, bétail, engrais, blé et betteraves. On y ajoutait des élégances, une écurie de course, une belle meute, des chasses. Quelques-uns gardaient le culte des lettres. Ils traduisaient Horace et laissaient à leurs enfants un volume de vers. Mais qui dira la douceur des traditions? Les aimables relations de voisinage, la légende des amours, des mariages. Pour nous, jeunes gens, cette légende-là vous a dressé l'oreille. Il y avait des histoires romanesques, touchantes, d'autres plus comiques. Les filles étaient singulières, fantasques, difficiles tant qu'elles n'étaient pas mariées, soumises et fidèle, aussitôt les noces accomplies. Je tombais, à mon retour de Paris, dans le groupe des jeunes hommes de mon âge, et où j'appris tout de suite quelles étaient les héroïnes les plus convoitées. Nulle plus belle de la vie générale que Mademoiselle de Belteuse, la fille unique du comte. Même mon camarade Gautran, ayant demandé sa main, elle avait répondu qu'elle n'épouserait jamais un homme aussi jeune. Gautran affirmait en outre qu'Hélène de Belteuse, plus blonde et plus belle que la femme de Ménélas, avait, comme celle-ci, le goût de l'extraordinaire. Et si elle consentait à donner sa ceinture, à dénouer sa ceinture, ce serait pour le jeune héros qui la séduirait par l'original du « pas encore vu ». Depuis 3 ans, je n'avais pas vu Hélène enfermée au couvent, tandis que je vivais à Paris, où je passais mes vacances à potasser mes examens. La gamine de 15 ans, déjà charmante, était devenue une belle jeune fille de 18, avec toutes les transformations que l'on observe dans les créatures divines, dans le printemps de leur vie. De mon côté, alors qu'elle m'avait connu imberbe, je portais, à présent, une moustache qui ne tenait qu'à moi d'agrémenter une puissante barbe en collier. Les belgeuses habitent à quelque 30 kilomètres de notre château de Miéricourt et n'appartenaient pas à notre cercle le plus intime. Nous les voyons rarement. Cela vous expliquera à quel point la conquête d'Hélène me tenta. C'était l'inconnu. Pour l'apercevoir, j'avais plusieurs fois me posté dans l'église de son village, derrière un pilier. Et je devins finalement si amoureux que je perdis mon temps à soupirer et à courir la campagne. La chose aurait pu durer longtemps si le hasard ne m'eût servi. je lus dans les annonces d'un journal qu'on demandait pour une jeune fille un professeur de lettres. L'adresse indiquée, Château de Benedeuse, me frappa tout de suite. Sans doute le comte rêvait de parfaire l'éducation d'Hélène. L'annonce ajoutait que le professeur devait avoir un certain âge et qu'il ne commencerait ses leçons qu'en octobre. Mon plan fut fait tout de suite. Je courus à Paris trouver Marcillac, le bohème qui m'avait fait potasser ma licence de lettres, et je lui indiquai mon cas. Et moyennant 20 louis, il fut convenu qu'il me signalerait à Belliseuse comme un camarade qui pouvait et qui avait le génie de l'enseignement, un garçon sérieux, à peu près de son âge, il avait 40 ans, en voyage par mission, mais qui se présenterait au mois d'octobre si l'on voulait bien. Le comte Alléché accepta. J'obtins de mes parents l'autorisation de m'établir pour quelques mois à Paris et m'appliquai à me vieillir tous les procédés que je trouvais à ma disposition et à ma convenance. Je laissais pousser ma barbe, mes cheveux, mis un monocle à vert d'huître et pris des leçons de sérieux chez un bonze alors installé au Batignolles. Et quand je me présentais chez les Belliseuses, muni de la licence d'un ami de Marcillac, le comte me trouva très jeune, mais les papiers sont les papiers. J'étais bien conservé, voilà tout. On me présenta donc à Hélène comme un monsieur de 40 ans, sérieux et plein de lettres. Et je pus enseigner la littérature à l'ange de mes rêves, en présence d'une vieille gouvernante, heureusement un peu sourde, qui feignait de trouver mes discours admirables. Je brûlais de mes mille feux en racontant l'histoire des trouvères, des troubadours, des jongleurs. Je racontais la mienne. On me retrouvait partout. J'étais Roland. Je vivais comme dans Ronsard, je ressuscitais dans Musset. Et je bourrais d'amour dans plus d'un long poème. Au bout de la journée, elle goûtait assez cela. Elle fixait sur moi des yeux tranquilles et confiants, comme elle aurait pu le faire avec un brave oncle. Parfois, je fabriquais des vers, soi-disant, pour lui montrer comment il fallait s'y prendre, et toujours, ces vers célébraient Hélène, une Hélène blonde, s'enfuyait avec sur la mer retentissante vers Paris. Je lisais ces vers avec autant d'âme que la vieille tendait l'oreille, sa meilleure oreille, pour m'écouter, saluant au passage les rimes les plus sonores, mais pendant tous les mots en maints endroits. Ah, j'aurais ému les pierres, pas une fibre ne bougeait sur le visage de mon élève. Elle me considérait avec quelque surprise, Ensuite, elle rêvait longuement. Et quand je lui demandais à quoi, elle avançait les lèvres dans une petite moue. À la longue pourtant, cette poésie passionnée, toute cette littérature où l'amour occupait uniquement la pensée des auteurs, agissait sur la petite. Oh, je le voyais bien. Elle avait des rougeurs soudaines, des pâleurs ensuite. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour les héros de la fiction. Et quand elle me regardait, moi, le héros en chair, elle prenait l'expression des filles qui craignent d'être grondées pour avoir eu des pensées immodestes. Bref, je n'étais pas à ses yeux un amoureux, j'étais le père Fouettard. Comment vaincre une pareille indifférence? J'en devenais malade. J'abandonnais petit à petit tous mes trucs. Mon front se déridait. Je taillais ma barbe. Et mon air de jeunesse frappa le comte au point qu'il me présentait à ses amis comme un phénomène. Mais tout cela n'eût rien été si Hélène avait compris. Je crus bien faire en lui donnant à entendre que ma situation actuelle ne cadrait pas avec ma fortune, que l'amour seul, une passion, certes terrible, insensée, me jetait dans une occupation intérieure à mon an, sans. Elle ne me demanda aucune explication. Mon récit l'intéressa sans l'émouvoir, comme toutes les choses auxquelles elle ne sera jamais mêlée. Elle me marquait sourcement un peu de respect, s'imaginant peut-être que le roman de ma vie me vieillissait encore. Une fois, comme j'insistais, elle daigna répondre: « Oh, vous devez être bien malheureux. » « Oh, m'écriai-je, si vous saviez, vous qui êtes si bonne. » « Oh, une jeune fille, dit-elle modestement, ne sait pas, en effet, monsieur. Mais il me semble tout de même que j'ai quelque intuition de votre souffrance. C'est triste à votre âge. » À mon âge, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ne me trouvait-elle pas encore assez âgée? Je ruminais cela quelques jours. Puis, je profitai d'une absence momentanée de la gouvernante pour me jeter aux pieds de mon idole. « Hélène ! » criai-je. « Chère Hélène ! » Je ne lui vis faire aucun de ces gestes de femme qui croient devoir défendre leur vertu. Elle me regarda avec commisération. « Mon pauvre monsieur, dit-elle, ne vous exaltez pas ainsi, ne vous frappez pas. Mais, suppliai-je, comprenez-moi donc. » Cette manie de vouloir être compris par elle lui parut comique, et son sourire souleva sa lèvre. « Eh bien, je vous comprends. Oui, oui, je vous comprends. « Retirez-vous dans votre chambre, monsieur, et allez vous reposer. Un homme de votre âge se fatigue de tant d'émotions. »« Oh, dis-je, cessons ce jeu. C'est pour vous, Hélène, que je me cache sous les traits d'un professeur. Excusez cette supercherie. Je vous aime, et depuis si longtemps. » Je rampais sur mes genoux, je baisais un bout de ses doigts. Elle fit un bond en arrière et gagna la porte. Je ne la poursuivis pas. Une heure plus tard, le comte me fit venir. Je lui avouai mon stratagème, l'amour honorable que je nourrissais pour Hélène. Belleteuse, étant homme d'esprit, comprit qu'il fallait rire et exécuta de la meilleure grâce. Allons, dit-il, je vais plaider moi-même votre cause auprès d'Hélène. Mettez-vous là, vous entendrez tout. Il désignait un petit réduit fermé d'un rideau. Je m'y blottis. Hélène vint. Il lui raconta et lui représenta que je méritais de l'indulgence, que j'étais le fils du baron de Vénincourt, docteur en droit, et, ce qui n'y gâtait rien, plusieurs fois millionnaire et de plus fort amoureux, enfin le merle blanc. Hélène écoutait tout cela, ou plutôt, non, elle n'écoutait pas. Elle ne voyait et elle ne voulait voir qu'une seule chose. « Jamais, père, dit-elle, jamais je ne consentirai à épouser un vieillard.